Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle...
Pierre-Louis Bass.
Auteur, journaliste, il vient de publier un petit livre qui se souvient de 11 buts importants dans sa vie, de commentateur sportif, d'amateur de football et d'homme. Nous parlerons donc de buts et ce sera la deuxième étape d'une semaine entièrement imaginée autour de ce mot. Ça commence.
Nous, on jouait avec un gardien de but qui se mettait à ses 18 mètres lorsqu'on était dans le camp adverse. Notre gardien de but, c'était le boucher de l'emballe. « Morel, dans tes buts, Morel, dans tes buts !» Le pauvre Morel, pendant tout le match, se faisait rappeler alors par les supporters qui, ma foi, on les choquait tellement, ils voyaient ses buts vides, là, pas de gardien, ils disaient « on va prendre des buts !»
En 67, Jean Genet publie dans la revue Telle Quelle deux textes qu'il met en vis-à-vis. Le premier revient sur un épisode pour lui fondateur. Un jour dans un wagon, en regardant le voyageur assis en face de moi, j'eus la révélation que tout homme en vaut un autre. Tout homme, derrière son apparente charmante ou à nos yeux monstrueuse, retient une qualité qui semble être comme un recours extrême et qui fait qu'il est, dans un domaine très secret, irréductible peut-être, ce qu'est tout homme. Cette équivalence, écrit encore Genet, je crus même la trouver aux halles, aux abattoirs, dans l'œil fixe mais non sans regard, des têtes de moutons coupées, posées sur le trottoir. Ce qui est resté d'un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers et foutu aux chiottes, c'est le titre de ce très beau texte. Il est republié aux très belles éditions du Chemin de Fer. Demandez-le à votre libraire, il est 16h passé de 1 minute. Vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Sur le Polaroid du jour apparaissent des cartes de tarot. Sur le plateau du milieu, vers 16h20, le deuxième moment donc d'une semaine imaginée autour du mot « but ». Hier, nous avons distingué le but, vision à court terme et simplement évaluable, du projet qui engage son auteur dans un processus plus complexe et plus long. Aujourd'hui, le but se marque et il peut marquer. On parle football, enfance, miroir, politique, maillot, radio et vestiaire. Vers 16h50, nous écouterons un poème de Gilles Heillot, puis il sera 17h et nous retrouverons les équipes du 5 à 7. En attendant, installez-vous tranquillement, vous êtes invité dans la bibliothèque de la comédienne et chanteuse et auteure Ava Hervier. C'est elle qui vous fait lecture cette semaine et elle choisit aujourd'hui plusieurs poèmes inédits de Guillaume Sauzet, piochés dans l'anthologie des poètes du quartier. On écoute.
Qu'est-ce qu'on ferait sans le qui ? On ne dirait plus kiwi, mais oui. On ne dirait plus qui veut de la quiche, mais veut de lâche. On ne dirait plus Charles a besoin de béquilles pour se déplacer, mais Charles reste assis toute la journée. On ne dirait plus qui a tué Charles dans la salle de billard, mais Charles a gobé une boule. Enfin, on ne dirait plus Charles danse nu devant sa femme qui lui jette des saucisses en riant, mais nous ne reviendrons plus dîner chez les Girardons. Toi et moi, les nouvelles méthodes de la police des mœurs. Deux singes copulent derrière nous dans la grande roue. La petite bite rouge du mâle brousse et rebrousse les poils de la femelle qui pousse des cris de craie sur le tableau. Toi, fais quelque chose. Moi, quoi? Toi, déshabille-moi, caresse-moi, vite, vite, j'ai envie. Moi, mais tu voulais pas voir la vue? Toi, plante-moi un doigt, lèche-moi les nichons, démerde-toi, je suis excitée. Bouge-toi, mais bouge-toi! Moi, mais c'est à cause des singes? Toi, putain de pantalon. Alors, dis-moi des trucs obscènes. Moi, c'est un nain, il va à la fête foraine et toi, c'est bon, laisse tomber, je te quitte. J'ai essayé de comprendre, mais la grand roue est arrivée en bas et tu es parti pour toujours. Je suis restée là, debout comme un con, pendant qu'en haut, les singes se foutaient de ma gueule. Le sceptique. Ça va?
Ça va. Ça n'a pas l'air d'aller.
Non, c'est vrai.
Pourquoi?
Je sais pas, j'ai un problème. Je sais jamais combien on est.
Mais comment ça?
Si je suis tout seul ou si on est plusieurs, tu vois?
Ben non, désolé, je comprends pas.
Il faudrait se compter entre nous, savoir combien on est. Eh bien,
On est deux, toi et moi. Oh, tu sais, un nombre est toujours une hypothèse. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu veux? T'es vraiment là? Ben oui. Bon, alors ça va. Origine de la colère. Un marteau est brandi par un ex-policier frustré. L'ex-policier frustré est dans un supermarché. Le supermarché est sur la terre. Les insectes sont dans la terre. La roche est sous la terre. La masse de fer en fusion est sous la roche. La roche est du fer en fusion brandi par un ex-policier frustré. L'argus du poème. Est-ce qu'un poème est plus utile qu'une boucle d'oreille en os? Ce n'est pas au poème de répondre. Est-ce qu'un poème est plus utile qu'une petite annonce pour trouver une R5 bleu roi remplie de livres d'occasion? La question n'est pas « combien de poèmes faut-il vendre pour acheter une R5 bleu roi remplie de livres d'occasion ?» mais « existe-t-il une R5 bleu roi remplie de livres d'occasion hors du poème ?» et si oui, est-ce la même que celle du poème ? Ou bien la R5 du poème est-elle de toute façon plus satisfaisante et désirable que n'importe quelle R5 bleu roi remplie de livres d'occasion trouvée par annonce ? Petite annonce. Mercredi soir, quai d'Austerlitz, homme grand et maigre au chapeau mou, tu m'as arrêté et t'as dit « Rendons grâce à l'argent que tu n'auras jamais et donnons-le à l'État du Chili dont les milliers de mains penchées au-dessus du fleuve rouge n'attendent qu'un clin d'œil du cyclope gouvernemental pour en tirer des toilettes sèches et bâtiments pour les rêves et centres de désintoxication des maigres enfants sauvages à mitraillettes qui hantent les sous-bois tourbeux qui bordent le Lago Blanco. » T'avais l'air un peu fou et j'ai cru que tu voulais de l'argent, alors je suis partie. Mais t'es sur Facebook.
Ava Harvey, ce sont quelques poèmes qui sont tirés de l'anthologie des poètes du quartier signée Guillaume Sauzet, non encore édité, mais j'espère que ça ne saurait tarder. Qu'est-ce qui a présidé à votre choix?
C'était assez évident, je crois que c'était une des premières évidences quand j'ai commencé à réfléchir à des textes, parce que c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail. Guillaume Sauzet, c'est un poète, écrivain, circassien. Moi, je le connais d'abord en tant que circassien. Je l'ai vu sur scène d'abord. Je suis tombée amoureuse de sa présence, de tout, quoi. Et c'est quelqu'un de complètement hors norme pour moi. Enfin, disons, et il écrit, et c'est quelqu'un qui habite vraiment nulle part. Il se balade avec sa R5, justement, à droite, à gauche, et il passe des mois en Finlande ou à Paris, chez les uns, chez les autres, à écrire. Et voilà, et ça fait un petit bout de temps qu'il fait partager, enfin, qu'il m'a fait lire son travail. Et moi, je trouve ça fantastique parce que, en fait, ce qui me touche, c'est le côté à la fois totalement désespéré et à la fois complètement grotesque et absurde et plein de chair, quoi, très vive. Enfin, il y a du corps et à la fois, il y a du désespoir. Et en fait, je trouve que... Moi, je crois que c'est souvent ça qui me touche en général dans les œuvres, à la fois le. Parce que je trouve que souvent ça va ensemble, quoi. C'est quoi? C'est l'humour et la politesse du désespoir, non? Et voilà. Et je trouve qu'il a tout ça là-dedans et j'espère vivement que les gens vont le lire et l'écouter.
Est-ce que vous lisez d'autres poètes? Est-ce que ça fait partie de votre bibliothèque que vous déballez pour nous?
Bah, disons que j'ai grandi, en fait. Entourée d'artistes et voilà, le beau-père de ma meilleure amie était un poète qui s'appelle Jean-Clarence Lambert, avec qui j'ai grandi. Et donc, j'ai grandi avec cette physicalité, ce langage, ce rapport aux mots. Voilà, je me souviens d'Octavio Paz, qui était un ami à lui, entre autres. Et du coup, ouais, la poésie, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que justement, c'est très physique, quoi. Enfin, du coup, ouais, il y a pas mal de poésie que je lis et je pense que dans les chansons que j'ai pu écrire aussi, c'est ça que je cherche aussi, c'est comment le mot produit à la fois du mouvement et du sens, quoi.
Puisque vous parlez de chansons, quelle musique vous souhaitez faire entendre?
Bah, allons-y alors. ce morceau s'appelle Ace, le groupe c'est Lipstick Standard et c'est un de mes groupes. I say 1, 2. You say 3, 4. I say 5, 6. You knock the door.
We're standing still. You take a chair. I pick a card. Business affair. You put an ace. Still is my face. I scream out loud. Your eyes like lake. I put my mask. I say 1, 2. You say 3, 4. I say 5, 6. You knock the door. We're in the dark. You pick a card. I scream out loud. I let you dying. You leave me choking. You take my neck. I take your hand. Glass are clinking. I say 1, 2. You say 3, 4. I say 5, 6. You push the door. We start to dance. Our body clink. You take my hand, but it's a miss. You touch my neck. Glass are clinking. I say 1, 2. You say 3, 4. You take your hand. On the floor, you touch my neck, you start to faint. Our body touch, I start to choke. I break your legs, glass are still clinking. I say 1, 2.
Demain, Ava Hervier poursuit le déballage de sa bibliothèque. Elle choisit pour vous un extrait de Porno-terrorisme, un texte de Diana J. Torres. C'est une artiste d'origine madrilène, activiste et créatrice du collectif Chiennes Horizontales, et c'est un très beau texte. Pour l'heure, il faut attraper toutes les images qui volent et les fabriquer. C'est le Polaroid. Le triangle créé par les trois portes est plongé dans une obscurité profonde et l'odeur reconnaissable de l'encens utilisé pour les messes. Depuis plusieurs années, une femme garde le rez-de-chaussée de cet immeuble dans une telle sobriété que l'on douterait de le savoir habité. Chaque matin à l'aube, elle s'assure qu'aucun papier ne traîne par terre, que l'escalier n'est peuplé d'aucun mouton de poussière et que tout à côté des murs, on peut se pencher, respirer à bloc et être ivre d'une cire citronnée appliquée à la main sur le bois des marches. Elle laisse ensuite les quelques locataires débarrasser les étages et ressort sur les coups de 10 heures, part du haut, nettoie chacun des paliers consciencieusement, avec un chant différent dans une langue différente, de païenne prière. Quand tout ceci est terminé, elle réchauffe une merveille de plats cuisinés la veille, déplace son tabouret devant la fenêtre et observe dans la cour les pigeons affairés à des parades classiques mais extraordinaires. Ce n'est que vers 15 heures qu'elle place sur le même carreau et bien à plat, directement au contact des rayons du soleil, les cartes de tarot qu'elle tire lentement pour l'un des locataires, chacun son tour, chacun son jour, et qu'il découvre le soir en rentrant. Les images mystérieuses et sensées intriguent les passants depuis des années qui n'y voient que la manie étrange d'une vieille gardienne. Mais elles sont en fait les prévisions plus ou moins clairvoyantes de destins colocataires. Presque le bruit d'une jungle pour ce Polaroid. Miss Chanel vous faisait entendre Lonely Press Play de Damon Albarn. Deux petites annonces maintenant, très France Culture. D'une part, vous rappelez que la chaîne vous propose cette semaine de réviser votre bac en écoutant Les Chemins de la Connaissance, La Fabrique de l'Histoire et les émissions de sciences, sachant que l'on peut tout à fait réviser le bac même si on le passe dans 5 ans et même si on l'a passé il y a 50 ans. Et vous dire aussi que dans la dernière livraison de France Culture Papier, le numéro 10, vous pourrez lire un entretien entre Jean-Michel Djian et l'ange toujours vert, Dominique Rocheteau. Ce sera bientôt à entendre sur la chaîne France Culture. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, il est 16h passé de 20 minutes, c'est la deuxième partie de notre émission et le second moment d'une semaine entièrement imaginée à partir du mot but. Hier, nous distinguions les concepts de but et d'objectif de celui de projet, plaçant le dernier dans une dynamique plus complexe et plus longue. Aujourd'hui, nous nous recentrons sur les buts. Ils sont au cœur du match de football, leur nombre permettant de déterminer les gagnants et les perdants d'un match. Ils sont le fruit d'actions plus ou moins collectives, et ils ne sanctionnent pas nécessairement le beau jeu. C'est d'ailleurs ce que certains amateurs reprochent au football contemporain, si centré sur le résultat qu'il en oublierait parfois le plaisir de la construction à plusieurs et de la prise de risque qui font tout le piquant d'une bonne partie. Pourtant, il y a des buts marquants dont on se souvient, et parmi ceux-là, 11 que vous convoquez dans ce livre, et avec eux l'enfance, un parcours de journaliste, d'auteur, des voyages, des rencontres et des images. Pierre, Louis, Basse. Mes seuls buts dans la vie est paru aux éditions du Nil. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Disponibilité pour le groupe à un moment donné. On sait qu'il va se passer quelque chose avec lui. Mais il se met au service, sur un côté, à droite, à gauche, on s'en fout. On s'en fout de ça. Le déclic qui vient à ceux qui sont audacieux, à ceux qui sont persévérants et à ceux qui sont intelligents. Vous m'avez écouté, vous critiquez ces jours, moi ? Jamais. Respect total des attaques. J'ai un respect total des attaquants parce que j'étais incapable d'être un attaquant. J'étais incapable d'aller devant. J'étais incapable de faire le geste qu'il fallait. Moi, ce que je souhaiterais pour terminer, c'est quand même un truc très important, c'est aussi frapper. On fait des jeux dans l'entraînement, on a très très peu de frappes. Je suis effaré de peu de frappes qu'on fait. Parce qu'on veut toujours se mettre dans la position la plus forte, la plus idéale, la plus belle. Ça n'existe pas, ça. Je crois qu'il y a un souci de mettre son partenaire dans une situation de frappe que vous n'avez pas. Pour la plupart, vous n'avez pas. Vous voulez toujours faire la passe décisive, vous voulez toujours... J'ai bien qu'il y a maintenant un concours de la passe décisive. Ça me plaît beaucoup, ça. Alors, on a fait 5 passes décisives, tu te rends compte. C'est vachement important. Moi, je préfère le but, moi.
Pierre-Louis Basse, on entend ici Aimé Jacquet dans le film Les yeux dans les bleus de Stéphane Meunier. On l'entend dans une fameuse séance de préparation, de briefing, débriefing avec les joueurs. J'avoue que si on oublie le fait qu'il est en train de parler de football, si on oublie le fait qu'il est face à des joueurs qui seront sur le terrain demain ou après-demain, on peut très bien décaler ça dans un champ plus existentiel quand il parle d'intelligence, de persévérance, d'aller devant, de faire le geste qu'il faut, de servir son partenaire pour une action intelligente. Aussi, ça renvoie au titre de votre livre, Mes seuls buts dans la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un but et quel est le rendez-vous que cela vous donne à vous ?
J'ai envie de dire, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le désir. J'avais envie de donner du désir, le désir du but, le désir d'une quelque chose qui a à voir avec la fulgurance, avec la rareté, et toute chose bien sûr en contradiction avec les temps que nous vivons. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas des buts extraordinaires aujourd'hui, spectaculaires, des buts qui compteront peut-être dans quelques années. Mais je crois que la première chose qui a un livre, c'est toujours un peu mystérieux, comment un livre se fabrique. Moi, chez moi, il se fabrique souvent, enfin, en marchant, et je crois que la première phrase qui appelle une idée est sans doute déterminante. Je crois me souvenir que J'ai aimé le football comme on aime son enfance. Je crois que j'ai travaillé sur cette phrase avec Gagner à en mourir, avec cette histoire qui se déroulait en Ukraine en 42. Et je crois qu'il y a tout cela dans ce livre et dans le désir d'écrire sur le sport en général et sur le football. Il faut que, comme dit, je crois que c'est Breton qui disait cela, repris par Julien Gracq, il faut l'écriture, il faut que ça fasse aigrette. J'aime bien cette expression. Il faut que ça cogne à la vitre. Et chez moi, quand j'écris sur le football, je crois que la plus belle des façons, le fait de cogner à la vitre, eh bien, il faut qu'il y ait de l'histoire, il faut qu'il y ait de la mémoire, il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait une époque qui revienne à la surface. Et voilà pourquoi j'en ai choisi 11. Et c'est très subjectif, voyez-vous. J'ai choisi 11 buts, mon Dieu. Il y en a tant d'autres, mais qui ne font pas forcément signe et sens. Et là, je pense qu'on aura le temps de l'évoquer, parce que notre époque est une époque de massification, de répétition, une époque de... comment voulez-vous vous souvenir, franchement, avec honnêteté, avec une forme de courage, avec pugnacité, de 1000 buts par week-end? C'est ça, notre époque. C'est que, et non seulement ce sont 1000 buts, mais ce sont des buts que nous n'attendons plus. Ce sont des buts que nous ne vivons plus dans la fièvre.
Mais justement, quand vous écrivez « Je sais très bien que mes buts ne reviendront plus parce que ces buts étaient des rendez-vous familiaux, étaient des rendez-vous de mémoire », on entend bien à la lecture de ce livre-là que ce que vous reconvoquez n'est pas seulement un but vécu avec, j'imagine, le plus de fièvre possible. Vous reconvoquez des assemblées devant des télévisions, louées pour l'occasion, des voisines qui sautent au plafond ou pas, des couloirs. Donc finalement, ce qui est le plus important, c'est le but ou c'est ce qu'il amène quand vous tirez sur le fil?
Je crois, oui, vous avez raison, c'est ce qu'il amène. Mais c'est là où on parle de littérature. C'est ça qui m'intéresse. Très, très curieusement, je prenais le bus et je relisais la très belle préface de Michel Crépu à un très beau livre de Jean-Pierre Nogrette aux éditions de La Différence, Pelé, Coppa, Banks et les autres. Jean-Pierre Nogrette est un personnage qui travaille surtout sur Sherlock Holmes et tant d'autres mythes. Mais il y a cette phrase de Crépu que je trouve très juste. La fabrique du mémorable. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, c'est le mémorable, la mémoire. Bon, elle passe forcément par l'enfance. Et en effet, je convoque des moments qui ont été déterminants dans ma construction. En effet, un père professeur d'éducation physique, communiste, des choses qui comptent. Bon, toutes choses dont je me suis écarté, dont je me suis éloigné. Mais sur le moment, sur l'instant, nous avons vécu des choses. Qui bien des années plus tard, je crois, ont à voir avec la littérature, avec la mémoire, avec le fait que tout cela est englouti.
Quand on est dans le vestiaire et qu'on entend Aimé Jacquet dire, bon, à un moment donné, c'est très joli de faire des passes décisives, c'est très joli d'organiser un jeu collectif, mais il faut y aller maintenant, les gars, il faut frapper. On fait des jeux à l'entraînement et je suis surpris, dit Aimé Jacquet, du peu de frappe, du peu de but que vous risquez à planter. Est-ce qu'il est question de construction de mémorable?
Écoutez, en tout cas, ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez passé montre à quel point Aimé Jacquet est un homme qui a une surface et considérable. Mais là, je ne fais pas de mauvais jeu de mots avec surface de réparation. Il a vraiment une connaissance et des hommes sur le terrain et du jeu assez exceptionnel. Il faut ajouter que Aimé Jacquet a hérité d'une équipe qui était tout de même assez défensive. Nous n'avons pas gagné la Coupe du Monde en 98 avec une équipe, c'est vrai, flamboyante. Vous voyez, on pourrait avoir des discussions très longues. L'équipe flamboyante qui a fini tout de même par triompher en 84 à l'Euro. Pour moi, la plus belle, c'est celle de 82, mais elle fut dans la défaite. Non, en 98, nous avons une équipe. Je me souviens de Zizou qui me disait « Oh, ben, on est tranquille parce que devant Barthès, on a des arbres. On a des arbres. » Il voulait parler de Desailly et toute la bande et de Laurent Blanc. C'est vrai. C'est une équipe de réaction avec un joueur comme Didier Deschamps qui était capable de remettre le ballon au sol, d'aboyer vraiment. Je crois que c'est tout cela que Aimé Jacquet.
Pourtant, il dit « Mais je vous aime tellement, les attaquants. » tellement pas été capable de l'être et je n'ai tellement pas été capable de ce déclic, de cette prise de risque et de ce qu'il appelle le bon geste, qu'il a une sorte d'appel un peu désespéré en disant « Où êtes-vous? Je voudrais vous voir jouer. » Est-ce que l'amour des buts, c'est nécessairement l'amour des attaquants? Est-ce que vous partagez cet amour-là?
Je crois que Aimé Jacquet, à ce moment-là, est dans un rapport tout de même au résultat. Il est à la fois le manager et l'entraîneur, le père d'une certaine façon. Et donc, il est obligé un petit peu de se dédoubler et même au-delà. Là, l'attaquant a un rapport très particulier au jeu. L'attaquant, c'est un personnage, quand il ne marque pas, bien souvent, il ne dort plus. Pratiquement, ça devient presque une névrose. Les attaquants sont attirés vers l'odeur du but. Alors, le rôle d'Aimé Jacquet, c'était en définitive de mobiliser tout le monde, comme le fait, même si la page est en train de se tourner, le Barça. Barcelone, c'est pas un hasard si des caractères très généreux, je pense à Michéa, Cruyff bien sûr, se sont passionnés, se passionnent toujours pour le Barça. Je crois que Jean-Claude Michéa est très, très supporteur du Barça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mise à disposition du collectif de tout le monde, de tous les joueurs, des 11 joueurs, y compris du gardien. C'est ce qui fait encore la force du jeu du FC Barcelone, capable d'attaquer, vous allez voir à quel point c'est contradictoire, y compris en défendant. C'est très rare. C'est-à-dire capable de profiter des contres pour aller créer le danger chez l'adversaire. Cela demande à la fois une technique et une rapidité et une façon de se mettre au service du collectif assez extraordinaire.
Quand Aimé Jacquet parle d'intelligence, et on entend souvent parler d'une intelligence de jeu, finalement les grands attaquants se démarquant par une intelligence de jeu, qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Qu'est-ce qui est mis au service de ce ballon qui finit dans les cages ?
L'intelligence, ça n'est pas seulement l'intelligence du jeu. Vous savez, on a longtemps séparé, on a longtemps cloisonné, en France en particulier. On a un rapport au sport et au football en particulier différent des Allemands, des Espagnols, des Anglais. Mais enfin, on a souvent, vous savez comme moi, considéré que bon, dans un conseil de classe, on donnait la parole au professeur d'éducation physique en quatrième ou en cinquième, voire en dernière position. On sait bien. Et quand Aimé Jacquet, lorsqu'il évoque l'intelligence du jeu, il évoque tout simplement aussi l'intelligence. Lorsque Platini est capable de voir derrière lui, hein, c'est Charles Vietri qui disait cela, il avait comme les papillons des yeux derrière la tête. Eh bien, c'est une forme d'intelligence. C'est ce que veut exprimer Aimé Jacquet. C'est la capacité à voir avant les autres, à deviner, à anticiper. Et ça, c'est une forme d'intelligence. Et pas seulement une intelligence du jeu. Vous avez des joueurs absolument remarquables, de très grands attaquants, qui n'ont pas forcément cette capacité. Et un grand joueur et doit être capable de renverser une situation, y compris avec des joueurs qui ne sont pas forcément à son niveau. Ça, c'est l'intelligence, très rare, de 6, 7, 8 joueurs dans le siècle, et pas l'avantage.
Donc c'est toujours une alchimie assez difficile à décrire en termes de, comment on pourrait dire, d'équilibre entre une très très grande solitude et de quelqu'un qui doit à un moment donné totalement quitter le collectif et une capacité de s'y fondre complètement pour prendre toutes les forces dont le collectif dispose.
C'est très juste. Je crois qu'on peut encore prendre l'exemple du Barça. Messi, bien sûr.
Messi est un autre joueur.
Oui, Messi l'Argentin, qui est-il sans Iniesta ? Là, on fait un petit peu de technique, mais bon, je pense qu'on est joueurs qui sont maintenant suffisamment vulgarisés et connus. Iniesta est un joueur absolument extraordinaire. Je regrette qu'un tel joueur n'ait pas eu le Ballon d'Or. C'est un créateur, c'est un dribbleur, c'est un garçon capable de trouver des trajectoires absolument, absolument rares, vous savez, dignes de la Formule 1 ou du golf. Ce sont des joueurs aussi de trajectoire, ce sont des joueurs qui ont la capacité à trouver des angles, ça il faut. Et Messi, bien sûr, mais Messi, encore une fois, sans Xavi, sans Iniesta, n'est pas forcément le grand attaquant, même s'il est capable, oui.
En même temps, il doit pouvoir y aller seul.
Bien sûr. Ça, c'est le caractère unique de l'attaquant. C'est une forme d'égoïsme, mais d'égoïsme salvateur. C'est-à-dire qu'il est aussi, si je puis dire, embauché pour cette raison.
Quand vous dites que c'est une capacité de décision, une capacité de choix, notamment de choix dans l'angle, vous qui avez fréquenté ce milieu-là aussi du côté de l'entraînement, qui avez pu rencontrer les gens et les entraîneurs qui conçoivent le jeu avec les joueurs, comment sont-ils entraîner à cette prise de décision, à cette prise de risque, et finalement à l'analyse et à la synthèse si rapide qu'elle permet le tir.
Je crois qu'on ne mesure pas, je pense que c'est tout de même assez vrai pour tous les sports de très très haut niveau. J'ai eu la chance, c'est vrai, pendant quelques années, d'être au plus près, parfois, y compris de commenter sur la pelouse. Ce fut le cas également pour le ski, qui me passionne. Moins l'athlétisme, car déjà, il s'éloignait. Et c'était compliqué, très compliqué, quand vous commentez une finale de 100 mètres olympiques, d'être au plus près, même si je me suis toujours refusé de m'appuyer sur l'image. J'ai toujours préféré le réel, quitte à souffrir, parce que je suis assez myope, mais j'ai toujours fait confiance au réel et à ma capacité à commenter. Eh bien, pour ce qui est du football, vous n'imaginez pas à quel point ces garçons ou ces filles, hein, aujourd'hui, qui également progressent, mais parlons des garçons, sont doués. Vous n'imaginez pas ce qu'est une transversale de 70 mètres dans les pieds du copain. L'un de mes derniers grands souvenirs, je suis allé voir Zizou et le Real où il jouait encore, c'était comme une balle aux prisonniers inventée, réinventée en permanence, des ballons qui arrivent au millimètre près. Et il m'est même arrivé, voyez-vous, en 92, j'étais jeune et fringant, de jouer avec Platini et Giresse, vous savez, des matchs qu'on organisait. En Suède, je me souviens très bien, faire une petite partie. À l'époque, Platini était le sélectionneur de l'équipe de France. Eh bien, je ne jouais pas, je regardais. Parce que on est entre la pureté, mais absolue, du geste technique, la puissance, c'est quelque chose. Savez-vous, c'est assez extraordinaire. Alors après, les entraîner, ce sont des tactiques, des schémas. Mais les joueurs en tant que tels ont un tel bagage que on est, je ne sais pas quel. Comparaison, je pourrais faire peut-être Nourieff.
La danse, c'est ce que j'allais
dire. La danse,
dire.
Oui, vraiment. La danse. Et d'ailleurs, il y a des rapports entre la danse et la musique qu'on connaît et qu'on sait bien. Le Brésil s'est reconstruit contre le football européen à travers la musique, la samba et d'autres moments.
Quand vous dites qu'un attaquant ne dort pas s'il ne marque pas, on vous croit très largement, sans problème, tout comme on peut croire qu'un gardien ne dort pas s'il n'arrête pas de but. Quelle est la part du but dans le discours des joueurs et dans le discours des entraîneurs? Est-ce que c'est le Graal, vraiment l'endroit central de la conception du football aujourd'hui?
Je pense que c'est le Graal, oui, bien sûr, mais c'est quelque chose finalement d'assez... j'ai presque envie de dire qu'on est assez autiste sur cette question, parce que c'est le but vient ou ne vient pas, mais il n'est pas forcément systématisé dans la construction au préalable. Je ne le pense pas. Je pense que c'est un événement qui arrive. Comprenez-vous, vous ne pouvez pas prévoir et anticiper un geste comme celui d'Ibrahimovic en Coupe du Monde ou en match amical, je ne me souviens plus, mais ce geste extraordinaire qu'il fait à 50 mètres de ses buts. Vous ne pouvez pas anticiper sur ses ailes de pigeon, non. Je pense qu'il y a un mystère autour du... Il y a une construction, bien sûr, il y a des schémas. Ensuite, il vient ou il ne vient pas. Mais je ne pense pas que ce soit donné de cette manière.
C'est à 11h23, heure de Rio, que Pelé, le grand Pelé, le numéro 1 du football mondial, a marqué son 1000e but. Un but qu'un artilleur comme lui ne pouvait manquer dès lors que l'arbitre ordonna un pénalty sifflé en sa faveur. On en était à la 35e minute de la seconde mi-temps, dominée par le Santos, l'équipe de Pelé. Un petit coup de pied sec, un jeu pour Pelé, et la balle se loge dans un coin de la cage du Vasco. Alors on a vu éclater l'immense rumeur du stade, puis Pelé se précipiter sur le ballon blanc, le ramasser et l'embrasser. Porté en triomphe par les journalistes et les photographes, Pelé a ensuite fait le tour du terrain à la manière d'un matador en saluant la foule.
Ce sont bien sûr les cariocas en pleine euphorie que vous entendez actuellement. Ce battage, car il faut bien le dire, s'en est un autour de ce 1000e but, n'est pas goûté de tous avec le même enthousiasme. Puskas, le célèbre joueur, affirme par exemple ce matin qu'il a marqué lui plus de 1000 buts dans sa carrière, mais qu'il s'est attaché beaucoup plus à la qualité qu'au nombre.
Pierre-Louis Basse, ici un extrait d'un journal du 20 novembre 1969, le lendemain du 19 novembre 1969, jour du 1000e but de Pelé, qui est rebaptisé Pelé d'ailleurs dans ce sujet. Ça fait partie des 11 buts qui sont au rang des seuls buts de votre vie et qui sont des moments de description dans ce livre-là. Il fallait en choisir un parce qu'on ne peut pas décrire les 11 buts que vous avez choisis dans le détail. Mais peut-être prenons celui-ci. En quoi est-ce qu'il faisait nécessairement partie de la liste des 11?
Parce qu'il ramasse vraiment tout un socle à la fois politique, d'émotion, affectif. J'ai grandi dans une famille de sport, allant voir à Colombes les réunions d'athlétisme avec un père prof de gym, donc forcément un fils. On partage beaucoup de choses, créant les premiers clubs de plage en Loire-Atlantique, donc sur les plages de Saint-Brévin-les-Pins. Je jouais à la balle, forcément, ma première Coupe du Monde, c'était en 66. Et le but de Pelé, voyez-vous, je le découvre très loin, j'ai à peine 10 ans. J'ai envie de dire qu'il prolonge comme émotion. J'ai d'ailleurs travaillé sur ce 200 mètres de Tommy Smith à Mexico. Il prolonge ces mêmes émotions. Il ramasse politiquement des choses tout de même déterminantes. Pour Tommy Smith, c'est la lutte, bien sûr, des minorités raciales, féministes. Nous sommes en 68, les grandes grèves, les Jeux d'hiver et puis ces Jeux d'été à Mexico. Et Pelé, j'ai le sentiment, alors que je regarde très loin ces images, je ne comprends pas très bien à l'époque. C'est très trouble. Vous savez, on a une image, d'ailleurs vous parlez du journal, ça vient longtemps après, on n'a pas les images sur le coup. Je ne peux la comparer qu'à l'alunissage, vous savez, de Aldrin et Armstrong, des images lointaines qui sautent. Et puis, c'est la force du récit, parce qu'en définitive, mon père a dû me confier à l'époque, mais ne t'inquiète pas, j'avais presque peur. Je voyais toute cette masse, ces reporters, et mon père m'a dit, mais ce sera certainement raconté dans Miroir Sprint. Et alors, il faut parler de Miroir Sprint, qui était une revue très lue dans nos milieux, qui fait référence, et là je le salue, à Michéa Père également, parce que je crois que si j'ai fait ce métier, si j'ai eu envie de le faire, c'est en grande partie grâce à Abel Michéa, qui était journaliste à l'Humain, et qui m'a donné envie de raconter, de m'attacher au récit. Et ce but va être raconté par François Thébault, qui sera le seul envoyé spécial à ce moment-là au Brésil. Et nous lisions à la maison les
François Thébault, qui est donc journaliste.
Qui était journaliste et responsable de la rédaction, avec des noms, bien évidemment, qui se sont éloignés. Mais je pense à Raymond Pointu, à Jean-Claude Griveaux, à Robert Baran, qui étaient vraiment des plumes à la maison. Et François Thébault va raconter merveilleusement ce livre, lui qui était le défenseur. Ce but de Pelé. Et voilà, on est vraiment, on est au plus près de la mémoire, de cette première mémoire de sport.
Quand on parle but, on parle d'hommes et d'hommes mis en avant. On a bien décrit la difficile et la très délicat mélange entre la solitude, l'individu et le collectif. Cependant, quand vous parlez de Pelé, dans ce livre, vous dites que c'est un héros. C'est vraiment le cas de la figure solitaire quand on évoque le héros. Quel est cet homme-là dont vous dites qu'il est aussi sensuel, qu'il est capable de saisir l'air du temps? On a l'impression que vous décrivez quelqu'un qui outrepasse très largement le terrain de football.
Oui, alors il a déjà gagné la Coupe du Monde en 58, hein, 62, on est là en 70, vraiment, on est à un moment très, très puissant, parce que 69, 70, c'est à la fois la découverte à l'image, grâce à la télévision, du football, mais c'est encore très bricolé. Quand je parle de sensualité et d'héroïsation, on est dans le noir et blanc, le Santos a une tenue blanche, pelée, apparaît comme comme un danseur, il est à la fois loin de nous, loin de moi, mais il exprime tout cela. C'est quelqu'un avec Garrincha qui, j'ai envie de dire, qui a passé sa vie de footballeur à danser et à faire des choses que les autres ne faisaient pas. Donc, il y a cette figure, encore une fois, à travers le récit, ça n'est pas l'image ni la radio qui vont me donner l'amour. C'est le récit, et c'est ça qui est important. Le récit va vraiment s'inscrire dans ma construction. Et de la même manière, quand quelques années plus tard, on est en 69, je découvrirai le but de Triantafylos, joueur grec avec Saint-Étienne. Et bien là encore, on est dans le récit, parce que c'est un match, on est en 74, que je n'ai pas vraiment le droit de vous découvrir d'une façon qui n'est pas retransmise, et je suis dans mon lit et je vais le découvrir à la radio. Et c'est un choc extraordinaire, vous voyez. Pelé, c'était lointain, c'était le noir et blanc. Là, c'est totalement l'imaginaire. Et voilà une voix, celle de Fernand Choisel, qui s'est presque imprimée en moi avec les manifestations, les grandes grèves de 68, car à la maison, la famille écoutait Europe 1, et Fernand Choisel était l'homme des barricades, c'était l'homme qui commentait la plupart des barricades. Donc, cette voix s'était installée. Et voilà, je la retrouve dans mon lit pour ce match très important, qui est un match qui lance vraiment Saint-Étienne avec 5 buts, pensez-vous. Et cette voix, cet imaginaire, ont sans doute contribué à mon envie de faire de la radio.
D'ailleurs, vous dites ça quand vous racontez cet épisode dans le livre, vous terminez ce texte en disant « la radio ne s'éteindra jamais ».
Oui, la radio ne s'éteindra jamais et j'irai même au-delà. L'imaginaire, bien des années plus tard, lorsque quand je vais travailler à la radio et commenter des matchs, eh bien figurez-vous que je me retrouverai à Saint-Étienne et cet endroit dont j'avais rêvé, qui avait été imaginé par l'enfant que j'étais, eh bien correspondait à la réalité. Je me suis retrouvé à Saint-Étienne et je me suis dit, c'est quand même très étrange, ce but que j'avais imaginé bien des années auparavant, eh bien cet imaginaire, vous savez, ça a son importance, car j'ai toujours d'une certaine manière préféré l'imaginaire à la réalité, et tout cela se mélange, récit, imaginaire, littérature, création, amour du but rêvé plus que du but répété aujourd'hui. Voilà, tout cela se mélange.
D'ailleurs, on se demande à la lecture de ce texte, tant les souvenirs intimes sont imbriqués avec les actualités politiques des moments dans lesquels s'inscrivent ces buts, si vous les avez revus, si vous avez cherché des images de ces buts avant de les décrire.
Certains, oui, mais en même temps. Enfin, ça, j'ai pas mais je dois vous dire qu'ils sont si présents, si puissants. Je crois qu'on vit un moment tout de même très, très fort du point de vue du rapport au temps et à la mémoire. Je pense que, je vous parlais tout à l'heure de ces 1000 buts que nous voyons par week-end, de cette fréquence de ces matchs qui reviennent. C'est très troublant. Je pense que la rareté à avoir, et avec le désir et avec l'amour d'un événement. Je crois que, d'ailleurs, parlons de la Coupe du Monde, Sepp Blatter et d'autres ont milité à une période pour que la Coupe du Monde ne soit plus tous les 4 ans, mais tous les 2 ans. Il y a eu une telle levée de bouclier. Quelle erreur ! On sait bien que c'est tout de même de la rareté que l'amour et le désir viennent. C'est un peu tout cela que je veux exprimer. Non pas que je n'aime pas aujourd'hui quelques grands matchs, bien sûr je m'y intéresse, et bien sûr j'aime le football. Mais ce qui me trouble et ce qui m'inquiète, c'est que ces hommes qui étaient encore des hommes deviennent petit à petit et progressivement des produits. Il suffit de voir le travail de Bilal, le Enki Bilal, pour comprendre à quel point le football d'aujourd'hui ou de demain ressemble tout de même à une robotisation. Enfin, des sponsors sont prêts à tatouer des pubs sur les corps des joueurs aujourd'hui. Ce sont les dernières résistances. Et le regard que je porte est un regard différent. Oui, j'ai envie de lenteur, j'ai envie de me souvenir, de me ressouvenir des événements et des êtres engloutis. Voilà.
Avec beaucoup d'idéalisme, on était un certain nombre, un petit nombre je dirais, mais conséquent quand même, un noyau né autour du miroir du football qui voulait lutter, ça se faisait beaucoup à l'époque, contre ce que Jean-Claude Trottel par exemple appelait les abus du football dominant. Alors c'était quoi les abus du football dominant ? Eh bien c'était le culte du résultat à tout prix, c'était la violence de plus en plus sensible dans les matchs, c'était la disparition qu'on ressentait cruellement de ce qu'on en appelait le beau jeu, et puis c'était aussi, surtout d'ailleurs désigné, montré du doigt par François Thébault et par le miroir du football, tous les risques inhérents à ce qui commençait seulement à ce moment-là, et qui était la commercialisation du sport.
Pierre Loubas, vous voyez, on y était déjà. C'est un documentaire de 2002, Les Fouteurs de Troubles, diffusé dans la Fabrique de l'Histoire sur France Culture. On entend ici André Hélard, je ne sais pas si c'est André ou Alain, bref, en tout cas Monsieur Hélard, qui parle du risque de commercialisation du football, du culte du résultat, de la disparition du beau jeu et de ce mouvement football progrès et du miroir du football qui fait suite au miroir sprint. Alors, du coup, on se dit, mais si ce risque est toujours présent, si la disparition du beau jeu était déjà décrite en 1960, en 1970, dans les années 2000, est-ce qu'il n'y a pas là aussi des permanences nostalgiques qui regrettent un beau jeu qui serait le beau jeu d'avant ?
Mais heureusement que cher ami, que la nostalgie je dirais son voisin, la mélancolie existe, parce que si ces ingrédients qui sont un peu l'envers du bonheur n'existait pas, alors quelle serait la création et surtout quelle serait la vigilance? Je pense à cette très belle phrase de Thomas Mann en 29 ou 30. Nous ne pensons pas que la barbarie peut être contemporaine de nos vies. Voilà ce qu'il écrivait. C'est vrai qu'on ne pense jamais que la barbarie peut être contemporaine de nos vies sur le fond. On a envie d'être heureux et on a envie de plaisir, mais on peut tout de même aussi réfléchir. Et concernant le football, je ne me satisfais pas, je vais vous donner qu'un ou deux exemples. Par exemple, que le football de l'équipe de France et que le football en général, la Ligue des Champions, les grands matchs, soient aujourd'hui vendus, achetés. Celui ou celle qui n'a pas les moyens, une famille, d'accéder à Bein ou à Canal, quel que soit le talent des rédactions, ça n'est pas le souci. Mais que fait-il? Faut-il qu'il ait les moyens pour aller boire un coup avec des copains à l'extérieur? Alors vous me direz, les cafés sont de nouveau remplis, et très bien. Mais moi, ça me choque. Vous partez d'un football qui n'avait pas mis la classe ouvrière hors champ. Jean-Claude Michéa en parle merveilleusement dans son livre autour de « Le plus beau but était une passe ». Je pense à Jean-Pierre Nogrette encore une fois. Cette classe ouvrière, elle n'est pas disparue avec armes et bagages. Elle est différente aujourd'hui, mais elle est là. Pourquoi la priver de ce jeu? Alors, en effet, au nom, Margaret Thatcher disait, de la lutte contre le hooliganisme, c'est nous prendre pour des gogos. Les supporters ne sont pas forcément des hooligans parce qu'ils créent, parce qu'ils inventent des slogans et parce qu'ils sont un peu bruyants. Je pense que pour aller au match parfois en Grande-Bretagne, prenons l'exemple de la Grande-Bretagne, je suis frappé, je vais voir un match à Arsenal ou à Chelsea, eh bien, je suis au théâtre. Je suis, bon, très bien, c'est tout à fait aseptisé, c'est très calme, mais voilà, il y a une forme d'altérité qui disparaît. Et ça c'est une chose inquiétante.
Puisque vous citez Jean-Claude Michéa, citez le livre que vous avez sous les yeux. Quand vous êtes arrivé, vous parliez aussi du livre d'Olivier Guez, Éloge de l'esquif chez Grasset, d'un futur livre peut-être, on espère, de Philippe Bordas chez Gallimard. On a l'impression que l'écriture sur le football, si elle n'appartient plus au miroir du football qui n'existe plus, si elle n'est pas resserrée dans l'équipe et même chez SoFoot, elle se déplace dans un autre champ qui est celui de la littérature pour dire autre chose. Il y aurait une sorte de époque 2014-2015 qui dirait autre chose sur le football en ce moment.
C'est très excitant, ça. Vous avez tout à fait raison de le souligner, parce que c'est l'aspect, je dirais, vraiment lumineux de cette période que nous vivons, avec un retour au récit. C'est-à-dire que moi, je me refuse à penser que l'image va nous engloutir. Enfin, écoutez, on est ici dans une maison prestigieuse. Il me semble que Monsieur Jean-Christophe Averty n'avait pas besoin de l'image il y a bien des années pour créer du beau et pour créer du beau partagé par l'ensemble. Alors, ce retour au récit est très intéressant. On pourrait citer aussi Echenoz qui a écrit sur Zatopek, Paul Fournel, mon ami Bernard Chambas, qui écrit des livres merveilleux sur le vélo et sur d'autres moments, sur le football, qui a écrit sur ce gardien allemand. Donc, en effet, c'est très intéressant. Au moment où l'image semblerait nous engloutir, vous avez parallèlement une façon de remettre ou de mettre la littérature au centre. On a longtemps, on avait 4, 5, 6 noms, je vous le disais tout à l'heure, mais bon, sortie de Blondin, très bien, formidable. Monterland, les Olympiques de Maurras, on était un petit peu, vous voyez, c'était un peu toujours là, presque une antienne. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une réflexion, un imaginaire, un récit, même si ça n'est pas simple, autour du sport, du football en particulier. Et ça, oui, c'est très intéressant. Ça fait écho à ce qu'écrivait, ce que disait Pasolini il y a 40 ans, quand Pasolini s'en prenait un peu aux intellos, en les traitant
de snobinards. C'est ce que j'allais dire, ça permet aussi de recoller deux mondes qui sont de manière totalement artificiellement séparés, à savoir l'intellect et le corps, l'intellect et le jeu, l'intellect et le collectif dans cette forme-là. D'une certaine manière, ces auteurs-là s'en emparent joyeusement. On attend par contre que des auteurs femmes le fassent.
Oui.
Que d'hommes.
Oui, enfin, quand je disais auteur, je vous avouerais qu'il n'y avait pas dans ma...
Oui, mais en même temps, il faut constater qu'il n'y a que des hommes qui écrivent sur le football.
Oui, oui, mais c'est arrivé, une grande dramaturge, j'avais écrit sur le geste de Zizou en 2006, et également, Jean-Philippe Toussaint, je crois que c'est Anne Delbé qui avait écrit, hein, je ne me souviens plus très bien, mais ce qui est certain, c'est que ce qui est transversal et qui a été très 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 bien raconté, je veux dire, y compris dans sa critique de la société Cité du spectacle par Debord et par Pasolini, nous y sommes. C'est-à-dire qu'un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans aujourd'hui peut en effet aimer l'art abstrait, peut aimer...
conjuguer une thèse de philo.
Voilà,
et
absolument, elle peut aller voir Bill Viola au Grand Palais et le soir aller voir un match de foot. Ça c'est nouveau et c'est intéressant.
Et nous pouvons avoir parlé pendant 43 minutes et avec entrain de buts, d'équipes de football, de matchs contemporains ou anciens et arriver très naturellement à 16h54 à de la poésie. Cette semaine, nous sommes plongés dans le bleu. Ça faisait longtemps, le recueil de Gilles Ayot que nous propose de feuilleter Béatrice Leca s'appelle « Dans bleu foncé du matin ». Les poèmes sont lus par Bruno Raffaelli de la Comédie Française, on en écoute deux.
Orang-outan. Vieillesse et sagesse. C'est un conspirateur émérite. Il connaît le poids de la légitimité surhumaine qui est la sienne et le nimbe d'une spiritualité rêveuse. Il est lui-même une loi non écrite qui sait qu'elle est et qu'elle n'est rien. Et sur tout ce qui l'entoure, il pose un regard de commisération. Mais il est prudent comme un malade mental. Il sait qu'on ne le croira pas. Très lentement, pour qu'on n'ait pas le temps de le voir avec ses doigts de baobab, il dispose sur son crâne une fraîche feuille de laitue. Empêtré dans les fils de sa forêt songeuse, à la lumière de la nuit des temps, il ressemble à un Rembrandt. Caïman. Quelle nocturne, ce corps un peu plus grand que nature, affalé dans l'indigestion de toutes les valeurs, en pleine lumière du jour et sur un sol de sa propre couleur. Il doit avoir aimé plus qu'Hamlet pour être ainsi étranger même à lui-même. Rejeté par la terre entière, il ne lui reste plus qu'à pleurer des larmes de crocodile. Lui aussi peut fleurir, cependant, en un éclair de toute son indépendance. Une goutte d'eau, le déclic de l'appareil photographique, et c'est comme si la terre s'ouvrait brusquement devant un saint.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado. La rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Thank you.
n'a pas dit jusque-là le palmarès de Pierre-Louis Basse, alors je vais le faire sur une bande musicale de Nino Ferrer. Ferklauf, Baggio, Giresse, Triantafilos, Rones, c'est comme ça qu'on dit ? Zidane,
oh,
Pelé, Kostadinov, Touré, Boli et Platini. C'est pas très sympa de se foutre de moi.
Ah non, pas du tout. Non, c'était joli.
Et moi, je sais pas.
Moi, c'est Giresse qui me plaît bien.
C'est joli.
Comment on dit ?
Alain Giresse,
Alain
je pense.
Giresse,
ouais, voilà.
Alain Giresse.
Bon, bah voilà.
Des grands joueurs français, Marie.
Mes seuls buts dans la vie, voilà, pour vous remettre au goût du jour et réapprendre à prononcer tous ces noms. Peut-être qu'il y aura des bonus sonores sur le site internet, car Cyril Baer avait retrouvé tous les commentaires radio de tous ces buts. C'est paru aux éditions du Nil. Merci beaucoup Pierre-Louis Basse d'avoir été
avec
nous.
C'est moi, j'ai passé un moment délicieux.
Pour écouter cette émission, franceculture.fr vous sera d'un parfait secours. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast de l'émission qui s'appelle Pas la peine de crier, où tous les petits bouts qui la composent, le poème, le polaroid et la bibliothèque. Pour nous écrire, le formulaire fonctionne parfaitement et je réponds à tous les orthographes de mon nom. Aux manettes aujourd'hui, c'était Emmanuel Morse d'un camp. Merci à Béatrice Leca et Céline Geoffroy et Marie Placet pour le poème du jour. Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Bec de Lièvre, c'est mon équipe. Cette émission a été réalisée par Miss Anne-Laure Chanel. On a des très beaux maillots dans un instant.